Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde.
Bonsoir et bienvenue sur RFI. Le monde est pluriel et ça tombe bien. Les rédactions de Radio France Internationale également. Accent du monde, c'est le regard de nos confrères des antennes en langue étrangère. Ce soir, Ubaldo Bravo, bonsoir.
Buenas noches.
De la rédaction hispanophone, vous nous parlerez de cette épine dans le pied de Donald Trump. Le chômage qui grimpe aux États-Unis affecte déjà les voisins des Américains. Et puis également vous, Tana Tran, bonsoir.
Bonsoir.
RFI en vietnamien. Le Vietnam parmi les pays les plus durement frappés par les droits de douane américains. Nous verrons ensemble comment Hanoï tente de négocier. Et on va tout de suite commencer par ce pavé dans la mare lancé par le secrétaire d'État américain en visite hier à Paris en compagnie de l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, Steve Witkoff. Marco Rubio menace de se retirer des efforts de paix entre Kiev et Moscou face à des négociations qui patinent. Le chef de la diplomatie américaine rappelle que les États-Unis ont d'autres priorités. Dans le même temps, les États-Unis annoncent la signature d'un mémorandum en vue d'un accord sur les minerais ukrainiens. Alors, un paradoxe. Donc, est presque un double discours américain. Tana Tran, un flou dans lequel la Russie se glisse pour annoncer la fin de la trêve sur les cibles énergétiques.
Oui, c'est le retour. On voit qu'avec Marco Rubio qui est en France depuis hier, on voit que c'est le retour du processus des Européens dans le processus de négociation pour mettre fin au conflit. Donald Trump a discuté directement avec Vladimir Poutine en mars dernier sans consulter ni l'Union européenne ni les Royaumes-Unis. La visite de M. Rubio et de l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, est une première. On a beaucoup attendu des premiers contacts directs avec Moscou, mais le Kremlin, ce vendredi, comme vous venez de le dire, a suspendu les attaques russes. Seulement, ce dossier évolue tellement vite que je voudrais vous souligner une chose. Effectivement, dans quelques jours, le 30 avril précisément, le Vietnam marquera les 50 ans de la fin de la guerre du Vietnam. Pour certains dans le pays, on parle encore de la chute du régime de Saigon. Alors, c'était un conflit qui a duré 14 ans, qui a débuté en 61, qui se finit en 1975 et qui a été d'ailleurs réglé avec les accords de Paris en janvier 1973. Dans les années 60 et puis début des années 70, Washington commençait à se désintéresser un peu du Vietnam pour se rapprocher de la Chine populaire de Mao Zedong. Et c'était dans l'intérêt des États-Unis. Donc en fait, c'est cette vision qui a changé entre le début des années 60, lorsque les États-Unis voulaient endiguer les communistes chinois.
Tana Tran de la rédaction vietnamienne de RFI. Alors, il a été question de guerre hier entre Washington et Kiev. Discussion notamment à Paris autour de ces négociations. Mais je le disais également de business, hein, signature d'un protocole d'intention sur l'accès des minerais stratégiques ukrainiens. Ubaldo Bravo, en Amérique latine, la Colombie n'est pas vraiment d'accord sur ces négociations.
Gustavo Petro, le président de la Colombie, pense que la paix entre la Russie et l'Ukraine les concerne directement et qu'il ne devrait pas y avoir d'intermédiaire. Après la visite de Zelensky à la Maison-Blanche, le président colombien a déclaré que le président ukrainien a soutenu une guerre avec des armes occidentales et qu'il se retrouve maintenant désavantagé face à la Russie qui utilise ses propres armes. Il a également déclaré que cette situation est motivée par des intérêts énergétiques. Selon lui, les guerres du XXIe siècle sont motivées par une économie basée sur les combustibles fossiles. D'ailleurs, Maria Sakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a dit récemment que la Russie pourrait développer une coopération avec la Colombie et que la Russie est disposée à travailler avec ce pays. Petro a confirmé que, effectivement, la Colombie et la Russie pourraient développer une grande coopération à condition, je cite les paroles du président colombien, que l'Ukraine et la Russie entament un dialogue direct sans intermédiaire.
Alors des discussions bien sûr commentées en Colombie, commentées ici en Europe, l'Europe qui espère revenir dans le jeu. On retrouve tout de suite Adriana Moises. Bonjour, bonsoir.
Boa noite.
De la rédaction Lusophone de RFI brésilienne. Comment ces négociations sont d'ailleurs perçues au Brésil ?
Alors, la rencontre de jeudi à l'Élysée entre Européens et Américains, ainsi que la déclaration d'aujourd'hui du secrétaire d'État américain Marco Rubio, selon laquelle Donald Trump n'insistera pas indéfiniment pour obtenir un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, confirme que l'administration républicaine et Trump en particulier ont minimisé la complexité du conflit. Depuis le début, il est clair qu'il n'était pas plus disposé à financer cette guerre, qu'il considère comme un problème européen. Trump reste concentré sur ses propres intérêts, par exemple l'accord sur l'exploitation des minéraux ukrainiens, initialement défavorable à Kiev, a apparemment été rééquilibré et pourrait être signé la semaine prochaine, selon ses annonces. En ce qui concerne la Russie, Trump est principalement intéressé par la réhabilitation du partenariat stratégique avec Moscou et par les affaires avec Vladimir Poutine, qu'il admire. Tout le monde le sait maintenant. Tout le monde, donc au Brésil, est d'accord pour dire que Poutine renchérit ses exigences. Il n'est pas intéressé à cessez-le-feu actuellement. La sécurité en Europe est désormais un problème européen, ça on sait aussi, et le moment de vérité s'approche rapidement car à partir de juin, les États-Unis pourraient suspendre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Poutine a déjà fait savoir qu'il n'accepterait pas que les Européens, comme l'Allemagne l'envisage, envoie des missiles à longue portée à Kiev. L'avenir de l'Ukraine dépendra donc en grande partie de la position que les pays européens adopteront, non seulement vis-à-vis de la guerre, mais aussi de leur propre sécurité collective, s'ils vont ignorer ou pas les menaces russes de co-belligérance. Quant à la position du gouvernement brésilien dans ces négociations, le président Lula a toujours défendu l'inclusion des Européens.
Acho que o papel do Trump de negociar.
Le président brésilien affirme qu'avoir toujours été un défenseur de la présence des Européens à la table des négociations, car l'Union européenne a beaucoup investi, selon lui, dans la guerre aux côtés de Kiev. Lula a approuvé l'initiative de Trump de rechercher un cessez-le-feu, mais il a également émis une réserve sur la détermination du républicain, déclarant s'il est vraiment intéressé. Et ça fait toute la différence.
Adriana Moises, les discussions sur la paix en Ukraine, la position des uns et des autres et surtout celle des États-Unis. On aura bien sûr largement l'occasion d'en reparler sur RFI.
Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Pierre Boudias.
Alors, il y a cette guerre sur le terrain entre l'Ukraine et la Russie, mais l'actualité, c'est également cette guerre commerciale, celle lancée par Donald Trump, pour le moment en partie suspendue, Chine exceptée, mais qui continue de faire planer le doute chez les partenaires de Washington. C'est notamment le cas au Brésil, grand pays exportateur de denrées alimentaires. Pour anticiper une reprise de l'offensive économique américaine, Brasilia met la pression sur l'Union européenne pour faire aboutir le traité de libre-échange avec le Mercosur. Adriana Moises, on vous retrouve de la rédaction brésilienne de RFI. Il faut dire que le Brésil, géant agroalimentaire par excellence, fait face à un paradoxe. Malgré une production alimentaire abondante, le pays est incapable de contrôler l'inflation des prix alimentaires.
Voilà, et bien les prix élevés de la nourriture suscitent actuellement un grand débat au Brésil. Depuis 2007, les prix des denrées alimentaires ont dépassé l'inflation presque chaque année, mais les pics de la pandémie ont fait grimper les prix à un niveau préoccupant. Selon les données officielles, les prix des denrées alimentaires représentent environ 25% de l'inflation au Brésil. La situation extérieure contribue à la hausse des prix, mais n'explique pas tout. L'inflation des produits de base, comme la viande, les tomates, les œufs et les cafés, reflète des problèmes de longue date dans la production agricole du pays. L'année dernière, la dévaluation du real, notre monnaie, par rapport au dollar, a rendu plus chères les importations d'engrais et des matières premières vendues à l'étranger, comme les soja et les maïs, base de l'alimentation animale, tout en stimulant les exportations. C'est vraiment un paradoxe. Donc, par exemple, les exportations du Brésil, l'un des principaux responsables de l'inflation, pas seulement au Brésil, aux États-Unis aussi, ont augmenté de 342% au mois de mars. Qui sont les acheteurs, qui ont été les acheteurs au mois de mars? Les États-Unis, les Émirats arabes unis, les Chili voisins, les Japon et les Mexiques. Que les exportateurs donnent priorité au marché extérieur est très mal vu par la population brésilienne. En conséquence, le Brésil, qui est une puissance agricole, se trouve dans une situation de pénurie d'approvisionnement pour son marché intérieur, nous a expliqué cette semaine l'économiste André Furtado Braz de l'Université Getúlio Vargas de São Paulo.
A gente produz tanto que a gente daria conta de exportar e ainda abastecer o mercado brasileiro.
Cet économiste, il dit que le Brésil produit tellement qu'il suffirait d'exporter et de continuer à approvisionner les marchés intérieurs. Le problème, c'est qu'il y a une inadéquation dans les processus. À des moments où les cheptels brésiliens est réduit, ce qui fait partie du cycle de l'élevage, et où s'ajoutent les problèmes d'une monnaie dévaluée, un choc d'offres s'est produit. Donc, il y a un manque de viande dans les boucheries et les prix s'envolent au Brésil. Ça veut dire que le Brésil va exporter encore de la viande et ça manque
un non-sens
au Brésil. Et encore,
à vous écouter.
Très cher.
Alors, un autre problème qui augmente le prix des aliments au Brésil, c'est la logistique de transport peu développée.
Exactement. La logistique brésilienne repose encore sur un transport routier inefficace et un stockage inadéquat, malgré une vaste réseau de rivières qui traversent les pays, de fleuves immenses, comme vous le savez. Le transport fluvial est peu utilisé au Brésil et les transports maritimes aussi sous-utilisés, tout comme les transports ferroviaires. Les transports des marchandises par camion, souvent sur des routes non pavées, encore, il y en a ça au Brésil, augmente les prix finaux des denrées alimentaires au pays.
Alors Adriana, le problème est posé. Maintenant, comment le gouvernement compte-t-il lutter contre cette inflation des prix alimentaires?
Les gouvernements brésiliens prévoient d'augmenter les investissements dans les stocks stratégiques des céréales, par exemple. Ces mécanismes sont coûteux et complexes à gérer, mais selon les experts, il peut être un outil efficace pour les pays pour s'y défendre contre la hausse des prix dans les marchés antérieurs, qu'elle soit due à des facteurs externes ou internes. Ces dernières années, la récurrence accrue des sécheresses extrêmement extrêmes a aussi affecté les pâturages et conduit les éleveurs à augmenter les importations des maïs et des blés pour compenser ces phénomènes climatiques. Cela finit aussi par avoir un impact sur toute la chaîne de production. Donc l'économiste André Furtado Braz considère les stocks stratégiques comme une nécessité face aux défis climatiques.
Os desafios de hoje são desafios climáticos mais frequentes. Então quer dizer que esses problemas de safra.
Il dit que les défis actuels sont des défis climatiques plus fréquents, ce qui signifie que les problèmes de récolte vont se répéter plus souvent. Comment s'y préparer? Même si la technologie ne garantit pas la survie des céréales aux inondations et aux sécheresses extrêmes, nous devrons trouver une solution, dit cet économiste. Les gens ne pourront pas mourir de faim à cause de cela. Et lui, il dit que de son côté, il pense davantage aux personnes qu'au capital. Ça veut dire ce qui gagne les exportateurs.
Adriana Moises de la rédaction brésilienne de RFI. On va continuer à parler de ces droits de douane américains avec vous, Tana Tran, de la rédaction vietnamienne de RFI. Le Vietnam, parmi les pays les plus touchés par ces nouvelles taxes, 46% pour les produits exportés vers les États-Unis. Mais en suspendant la mesure, Donald Trump ouvre la porte aux négociations. Hanoï reste pourtant très inquiète et se trouve dans une position inconfortable. Alors pourquoi une telle frayeur ?
Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Vietnam est un pays qui est très dépendant des exportations. Or, les États-Unis sont l'un des principaux marchés pour le Vietnamien. Les principaux secteurs d'exportation du Vietnam sont notamment le textile, l'électronique, la chaussure, les produits de la mer et les produits du bois. Près de 30% du chiffre d'affaires total des exportations vietnamiennes est destiné aux consommateurs américains. Vous comprenez que dans ces conditions, 46% des droits de douane frapperaient directement la croissance économique du Vietnam.
Et double peine pour le Vietnam, la guerre commerciale de Donald Trump ne vise pas uniquement le pays, mais toute la planète, dont les autres clients des entreprises vietnamiennes.
Oui, tout à fait. Avec les barrières tarifaires entre 10 et 50%, l'administration Trump n'a épargné personne. Sur nos antennes, le 9 avril dernier, notre invité, Chen Van Linh, président d'une association des exportateurs vietnamiens basée à Saigon, donc Ho Chi Minh Ville, a mis en avant l'effet inflationniste au niveau du globe.
Vấn đề thứ nhất, thì tôi nghĩ là thuế này không phải là thuế song phương.
Voilà, il souligne que ce n'est pas uniquement une décision bilatérale, mais multilatérale, ce qui signifie que tout le monde sera touché par une inflation, y compris aux États-Unis. Et d'autant plus que 70% des entreprises au Vietnam ont des investissements étrangers. Vous comprenez que le Vietnam est très durement touché.
Et dans ce contexte, que fait le Vietnam ? Quel levier de Hanoï pour discuter avec l'administration Trump ?
Entamer les négociations, c'est la première chose à faire. Et Hanoï a annoncé prête à réduire à zéro les droits de douane sur les marchandises américaines. Acheter davantage également aux Américains, y compris les équipements de défense. Cela dit, le Vietnam a des atouts pour négocier avec Washington. Écoutons notre invité. Alors, rééquilibrer la balance commerciale avec les États-Unis, c'est assez simple si on voulait juste déplacer le curseur des importations. Par exemple, concrètement, augmenter les importations américaines et réduire celles venant des autres pays comme le Canada ou l'Australie pour les produits agricoles. Quant aux hydrocarbures, le Vietnam pourra également acheter plus aux Américains. La vraie difficulté vient du fait que le Vietnam sert d'échappatoire aux exportations chinoises pour accéder au marché américain dans la stratégie, ce qu'on appelle Chine plus 1. C'est là le problème.
Tana Tran de la rédaction vietnamienne de RFI. On va continuer très rapidement, car nous sommes pris par le temps, de parler de cette guerre économique avec vous, Baldo Bravo. Une guerre économique qui affecte les États-Unis avec un chômage en hausse et qui a également des effets au Mexique, mais aussi au Canada.
Oui, Pierre, les Américains biffent déjà les conséquences des décisions du président qui changent tous les temps. Le 12 avril, il a déclaré la guerre commerciale au monde. Et puis, le 9 avril, Trump a décidé de faire une pause de 90 jours pour que les pays puissent négocier avec les États-Unis. Ces changements d'avis ne plaisaient pas aux entreprises qui cherchent des moyens pour se protéger des conséquences négatives. Donc, licencier une partie de leur personnel pourrait être une solution. Je vais revenir sur ces sujets, mais d'abord, je vais donner quelques chiffres pour expliquer la situation. En janvier, le chômage était de 4%, en février 4,1% et en mars 4,2%. Ce sont les chiffres communiqués par le département du travail américain.
Rappelons aussi qu'au début de son mandat, Donald Trump a limogé massivement des fonctionnaires. Il estimait que plus de 100 000 personnes ont perdu leur travail.
Oui, et sur ces sujets, on a contacté un chercheur qui travaille à la frontière entrepreneur du Mexique. Il s'appelle Javier Peña et il nous assure que là-bas, il y a des licenciements massifs dans l'industrie automotrice, réduit les personnels et la solution la plus simple appliquée, et cela concerne le Mexique et le Canada.
Au Balto, bravo. Merci beaucoup pour ce résumé succinct de la situation économique au Mexique et au Canada après les décisions économiques de Donald Trump. C'était Accent du Monde. Merci à vous d'avoir été avec nous. Émission à retrouver sur l'application et le site internet rfi.fr.